dream of more. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Trailer Boy, nouveau podcast sur Top 5. Alors, on fait notre rentrée un petit peu en retard, on est comme les facs, on commence en octobre, et on vous propose du neuf avec ce nouveau programme. Mais qui dit nouveau programme dit aussi nouveaux invités, parce que je ne suis pas tout seul au micro. Avec moi, Fixen de la team Bagro Point. Salut Fix.
Bonjour, bonsoir à tout le monde.
Bienvenue à toi. Donc pour cette première, on essaye un nouveau truc. Donc le principe de Trailer Boy, pour vous expliquer, c'est un film que lui il a vu, que moi j'ai pas vu, et qu'il doit me donner envie d'aller voir. Ce sera tout le challenge. Et le film de ce soir, de quoi s'agit-il ?
C'est de Blade Runner 2049.
C'est donc la suite.
La suite de Blade Runner premier du nom et de l'anime sorti une semaine avant le film de Blade Runner 2022.
Alors là, par contre, sur le coup de l'anime, tu m'apprends un truc. Alors j'avais vaguement entendu parler qu'il existait un anime, mais je savais pas qu'il y avait une espèce de cheminement logique entre les deux. Donc ce que tu me dis, c'est que il y a eu le film et ils ont fait un anime en pré-launch du film.
C'est ça. Alors, en fait, c'est celui qui est le papa de Cowboy Bebop et de Samurai Champloo qui a collaboré avec Denis Villeneuve pour faire un petit animé de 8 minutes, très court, pour remettre un peu en place l'univers qui arrive en fait. Les prémices de Blade Runner 2049.
D'accord. Donc là tu t'as sorti des noms, des références, Samurai Champloo, Cowboy Bebop, c'est du très lourd. Donc,
c'est du top.
Ok. Alors on va démarrer tout de suite et sans plus attendre. Donc avant quand même de parler plus avant de la version 2049, est-ce que tu peux replacer les bails pour ceux qui, ayant vécu dans une sphère cryogénique, ne connaissent pas Blade Runner premier du nom?
Blade Runner premier du nom, c'est tout simplement une adaptation d'un des livres de Philip K. Dick. Je me souviens plus du nom original, mais c'est Blade Runner aujourd'hui. Qui est un film de science-fiction, enfin mi-science-fiction, mi-polar noir, dans un monde très proche du futur, de notre temporalité. Mm-hmm. Et du coup, c'est un enquêteur qui est entre la police et entre les inspecteurs privés, ça s'appelle un Blade Runner, qui permet de chasser les réplicants. Les réplicants, ce sont des êtres transgéniques, pas des robots ni des humains, mais un entre-deux, qui sont en gros faits pour être manipulés en quelque sorte, à des fins...
C'est des esclaves, en fait.
Des esclaves, en fait, voilà.
C'est des ouvriers à pas cher, c'est des esclaves sexuels, c'est des trucs comme ça, en fait.
C'est ça. Et en gros, Deckard, joué par Harrison Ford, qui va chasser une bande de 3 ou 4 réplicants, je ne sais plus, je crois 3 principaux et un...
Enfin, c'est 4, il y en a un qui se fait tuer...
Oui, voilà, et donc, voilà, c'est Deckard qui va chasser les réplicants qui font bobo aux gens. Pour une raison que, si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à aller voir l'original.
Alors on précise que dans cette émission on va spoiler le moins possible, même si par inadvertance ça peut arriver, mais on sera vigilant là-dessus. Je pense qu'on peut un peu quand même spoiler sur Blade Runner le premier, parce que ça fait quand même un paquet de temps, donc là à ce stade-là c'est pas sérieux de tout retenir, surtout si on veut faire le parallèle. Donc il faut quand même dire que c'est un monument du cinéma. Le bouquin, donc, c'était Do Android Dream of Electric Sheep, de K. Dick, dont je crois qu'il n'y a aucune édition qui a eu le titre traduit comme ça.
Non.
Et donc ils prennent le truc de Blade Runner. Blade Runner, en fait, c'est le nom des détectives Deckard, joué par Harrison Ford, qui sont des exécuteurs, quoi. Ils sont là pour dégommer les réplicants. Alors très souvent, je crois qu'on a en tête faussement que les réplicants sont des robots, alors que pas du tout. Et je pense que, de ce que j'en ai entendu, le nouveau film donne un éclairage là-dessus. Et il y a eu pendant très longtemps et tout le dilemme de Blade Runner, au-delà de simplement le côté polar enquête qui finalement est pas fou, il y a ce côté quête d'identité du héros, puisque il en arrive à se demander en filigrane si lui-même ne serait pas comme ces créatures synthétiques, qui sont quelque part très proches des humains. Et là-dessus, on se rapproche d'une thématique un peu comme dans Ghost in the Shell sur qu'est-ce qui fait que je suis plus un robot, plus un humain. Et donc dans le premier Blade Runner, il y avait ça.
Ouais, c'est un peu tout le propos de la série. Enfin, non, on peut appeler ça une série. La série Blade Runner qui met en gros, question est-ce que les robots ne sont au final pas plus humains que les humains. Donc, après, il y a un cheminement de théorie. Il y a une grosse théorie qui entoure Blade Runner, c'est est-ce que Descartes est au final un réplicant ou pas? Et on en parlera plus tard dans Blade Runner 2049, parce qu'il y a une petite phrase qui permet de peut-être répondre à cette question, mais ça reste encore flou. Et voilà, c'est est-ce que l'être transgénique, donc créé par l'humain, n'est au final pas plus humain que nous? Je trouve que c'est très... Voilà, c'est une question qui à l'époque, surtout à l'époque, était originale et faisait beaucoup parler.
Alors, je dirais même que plus que la question, c'est la façon de la traiter qui était originale sur le premier Blade Runner, parce qu'on nous vendait un futur qui n'est ni totalement une dystopie, c'est pas un monde ultra apocalyptique, mais c'est un monde pas non plus très joyeux. C'est pas le futur version Retour vers le futur où tout est super cool, tout est high-tech et machin, mais c'est pas non plus des apocalypses. Donc on était sur un entre-deux, et ça situe vraiment Blade Runner dans l'anticipation plus que dans la science-fiction. C'est-à-dire que à quelques détails près, puisque tu disais, il y a la référence au film noir qui est super évidente, avec Descartes et son impère qui fait vraiment Philippe Marlowe. Il y a la femme fatale, il y a plein d'éléments que tu retrouves dans ces univers de cinéma, et puis tu as cet argument qui est typique de l'anticipation de qu'est-ce qu'un humain, qu'est-ce qu'être humain, et est-ce que ça compte vraiment que je sache que je le suis ou que je le suis pas, et blablabla, blablabla. Tout ça autour d'un scénario qui, comme je disais, est pas extrêmement original, mais qui est efficace et qui permet à la machine d'avancer. Et surtout, et du coup, je te poserai la question par rapport au nouveau, l'atmosphère de ouf qui se dégage de ce film.
C'est exactement ce que j'ai dit, en fait. C'est pas original dans son scénario, mais c'est original dans l'atmosphère complètement ouf de ce film. C'est jamais vu, c'est vraiment quelque chose de très spécial. Avant de parler, je pense qu'on peut maintenant parler de Blade Runner 2049. Ouais. On a passé...
Alors maintenant qu'on sait d'où on part... là va falloir me dire où on va, et c'est à partir du moment où on va rentrer dans la partie où c'est toi qui me vend le truc, c'est toi qui fais le trailer, donc à toi de jouer.
Donc Blade Runner 2049 se passe 35 ans après le premier volet. C'est un film réalisé par Denis Villeneuve et produit par Ridley Scott. Il faut savoir que Ridley Scott a laissé complètement champ libre à Denis Villeneuve au niveau de la réal, il a proposé juste comme Ryan Gosling par exemple, c'est lui qui a fait revenir Harrison Ford dans le film. En fait, il avait fait beaucoup de choix au niveau du casting qui sont en fait pour moi révélés très bons. Les personnages, enfin les acteurs sont très bien castés. Gosling est magnifique. Jared Leto, il apparaît peu à l'écran, mais il est magnifique aussi.
Mais il a l'habitude, Jared Leto, ces derniers temps, d'apparaître très peu à l'écran.
Non, mais il a vraiment pas de chance, parce que son rôle dans ce Blade Runner est vraiment est très important. Et de plus, il le joue vraiment très très bien. Moi qui n'aime pas tellement cet acteur-là, je trouve qu'il est vraiment magnifique dans ce film, pour le peu qu'on le voit. Et donc, pour continuer un petit peu, on suit l'agent K. C'est un Blade Runner, mais réplicant. On sait que c'est un réplicant de la toute dernière série. Sa mission, c'est de chasser la série 8 des réplicants qui s'avère être la plus dangereuse, celle qui est recherchée activement. Et donc,
l'histoire
du film va se baser sur le fait que c'est dans tout au début du film, hein, c'est même dans la synopsis. Enfin, plutôt dans la synopsis, pas vraiment, mais est-ce que, comment dire, je peux amener ça, sans trop spoiler. Ouais, je vais spoiler un petit peu, c'est important, c'est le début du film, c'est en gros, il va aller enquêter dans une maison, qui est aussi dans une maison d'un arboriste qui est un scientifique, et donc il y verra un arbre, chose qu'il n'y a plus dans le monde de Blade Runner. Et donc en gros le scientifique joué par Batista, je ne connais plus le nom du personnage, est en fait un réplicant de type 8, et donc c'est ce type 8 qui est recherché activement. Et du coup, il va se passer toute une scène très importante pour le démarrage du film, c'est qu'en fait, à la fin, il va analyser cet arbre et il va y trouver des ossements. Donc ces ossements vont avancer, c'est le tout début du film, c'est ce qui va permettre de lancer le fil rouge. Et en gros, le synopsis est très court et très simple. On reste dans l'ambiance de Blade Runner. Ça reste un film noir d'enquête plus ou moins mieux amené que le premier, je dirais. Ça prend son temps. C'est très Blade Runner en fait. Mais je trouve que c'est ça a du sens que ce soit lent, aussi lent, parce que dans Blade Runner 1, c'est ce que je trouvais un petit peu. Un petit peu dommage, c'est qu'il y a certaines choses qui étaient trop lentes, mais là je trouve que dans Blade Runner 49 c'est logique.
Le rythme va comme il faut. Parce que tu parles du premier Blade Runner, assez faussement, il est vu comme un film, pas d'action, mais quand même un peu rentre-dedans, ouais. Quoi, avec de la bagarre au pistolet laser ou autre, alors que pas du tout. Oui, il y a quelques scènes où ça se chahute un peu, on va dire, mais c'est pas du tout le fond du film, qui est avant tout basé sur son intrigue et sur le développement de ses personnages, plus que sur le côté SF. Il y a beaucoup de films où on garde cette image-là parce que c'est quelques scènes clés qu'on va remettre en avant. Et alors, j'étais pas inquiet sur la version 2049 et je vais commencer, tu vois, à te questionner par rapport à ça, parce que là on a replacé le pitch. Bon, déjà tu me vends du rêve avec le cast.
Ah oui, le cast. Ouais.
Il y a là tu m'as cité quelques noms. Déjà retour d'Harrison Ford. Alors on a l'impression maintenant que Harrison Ford il fait plus que du rétro.
C'est ça. Mais alors ce qui est beaucoup décrié, c'est que par contre dans Star Wars 7 c'est du fan service. Alors que dans Blade Runner 49, c'est vraiment pas du tout du fanservice. C'est vraiment, je tiens à souligner ça. C'est vraiment l'apparition d'Harrison Ford est logique. Elle apporte quelque chose, voilà, il y a du sens. Ça essaie de répondre à la question du premier Blade Runner, mais tout en étant en raccord avec l'histoire originale de ce Blade Runner 2049. Mmh. Bon, cette apparition a complètement du sens. C'est pas du fan service pour faire du fan service. C'est logique.
Alors par contre, moi je me pose une question parce que on a Ryan Gosling en personnage principal. Alors tu dis qu'il s'appelle K, c'est l'agent spécial K, c'est ça?
L'officier K, exactement.
Non, officier. Donc ma blague marche plus alors. Et le fait qu'il y ait cette rencontre entre deux générations d'acteurs, parce qu'ils sont un peu pas équivalents complètement, mais si vraiment on devait faire dans la caricature, on pourrait dire que Ryan Gosling est un peu un des acteurs type Harrison Ford qu'il y avait à son époque à lui. Est-ce que le réalisateur utilise ce truc générationnel de façon un peu méta ou pas du tout?
Non. Tu sais, j'ai toujours du mal avec cette notion de méta un petit peu, mais je trouve que Pas du tout en fait, c'est... Enfin, vraiment pas. Vraiment, vraiment. Je comprends, enfin... Ouais, non, je dirais non, c'est... pour moi c'est pas méta, c'est... Je, en fait, je sais pas comment te dire l'inverse, mais...
En fait, c'est, si tu veux, je te pose la question dans le sens où Denis Villeneuve, c'est un réalisateur qui, pour moi, est un peu compliqué à appréhender. Si t'arrives de but en blanc et que d'habitude tu regardes de l'actionneur et du blockbuster, et là tu vas tomber sur ces films où il n'y a pas ce genre d'ambition. C'est, on va le classer dans les réalisateurs plus cinéphiles. Et lui-même a un bagage cinématographique, tout ce que tu veux. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où le fait d'avoir ces deux acteurs-là, il a envie de les mettre ensemble pour simplement genre il a le jouet, il veut jouer avec, même si l'histoire a pas forcément de nécessité que ça se passe. Ah, c'est plus dans ce sens-là que je te posais la question.
Le fait qu'il soit complètement nécessaire au film, en fait.
D'accord, donc il évacue le problème en mettant vraiment ça au centre de l'intrigue.
Au début, non. Mais à partir d'un moment, oui, en fait. Parce que... En fait, t'es obligé de voir... Pour voir 2049, t'es obligé de voir le 1, sinon tu comprendras pas ce qui se passe à un moment au niveau des enjeux. Mm-hmm. Et oui, c'est...
Donc on a vraiment une suite au sens strict du sens. C'est pas un épisode en plus, c'est vraiment une continuité, et du coup... Donc ça, c'est un point important quand même dans ce que tu dis. C'est que si j'ai pas vu le 1, je vais pas pouvoir apprécier le 2.
Apprécier si, mais le comprendre moins.
Bah en général, si j'apprécie pas, enfin si je comprends pas, j'apprécie moins. Mais...
quand même assez d'informations pour.
Okay. Mm-hmm. Mais il y a des trucs que je vais pas piper.
Mais ça, okay. Ça, ouais, c'est un des petits défauts du film. Après, voilà, quand tu vois Blade Runner 2049, tu sais que c'est une suite, tu te dis, bah, forcément, je vais regarder le premier. Enfin, pour moi, ça me semble logique, mais pour d'autres, peut-être moins. Par exemple, quelqu'un qui veut aller au cinéma au pif et voir Blade Runner 2049. Pensez, mais au début, on a un petit résumé. À force, des fois, dans les histoires, on nous recentre un petit peu les choses. C'est quand même, il a pas fait ça, c'est que pour ceux qui ont vu Blade Runner 1, tu vois, c'est aussi pour tout le monde, et il a fait ça de manière intelligente.
Alors, le réal, justement, puisqu'on l'aborde, je le rentre un peu quand tu me citais le cast, pour moi c'est le cast élargi, ça peut être aussi les gens qui sont aux manettes, que ça soit pour le son, pour la réal.
Et l'image aussi.
C'était clairement pas le mec que je m'attendais à voir, dans la mesure où, on le sait depuis quelques années, Ridley Scott aime bien détruire lui-même ce qu'il a créé. Et ça se ressent comment le fait que ça soit quelqu'un d'autre qui ait repris les manettes de Blade Runner, mais que, vu que c'est pas Ridley Scott, quelque part, on peut s'attendre à un truc. Mais en fait, moi, c'est ça le postulat que j'ai eu en sachant que c'était pas Scott. C'est, je me dis, ben, il nous fera pas le même coup qu'avec Alien. Par contre, vu aux antipodes auxquels se trouve Villeneuve, qu'est-ce que ça va donner?
Bon, en fait, c'est que Denis Villeneuve a réussi à faire un matériau qui est propre à lui, mais tout en respectant l'œuvre originale. Ouais, c'est du Denis Villeneuve, quoi. J'ai l'impression. Et se les approprier tout en respectant, et mais pas en disant regarde c'est moi qui c'est mon Blade Runner, tu vois, c'est pas je vais, c'est mon Blade Runner, je te le montre, non, c'est j'ai un Blade Runner, j'ai fait du mieux que je peux pour retranscrire aussi bien et tout en y apportant ma patte, et c'est dur de définir la patte de Denis Villeneuve aussi, c'est reste que je pense pas, parce que enfin pas beaucoup peu de gens vont réussir à décrire son style, enfin exactement son style, c'est très...
C'est, voilà. Est-ce que c'est pas justement que il est capable de brasser un large spectre? Je vais prendre une équivalence, c'est comme Kubrick, il a des gimmicks, il a des trucs, alors bon, on a plus de recul sur Kubrick, donc forcément on le comprend mieux, Mais c'était un mec qui te faisait 5 films d'affilée, c'était jamais le même genre, il y avait jamais les mêmes composantes, même visuels, même en termes sonores ou autres. Le mec passait son temps à changer de registre, il était capable de faire plein de trucs. Moi j'avais même entendu une anecdote comme quoi il aurait contribué à un James Bond.
Yep.
Je sais pas si tu la connais cette histoire.
Pas le Denis Villeneuve ou de Kubrick? De Kubrick, non, je connais pas cette histoire. Kubrick.
Où en fait l'un de ses chefs-op avec qui il travaillait régulièrement travaillait sur un James Bond et il galérait pour faire une mise en scène donc il préparait le décor de la base du méchant, tu vois, un délire comme ça, et il est en grosse galère et il appelle Kubrick en mode vas-y mon gars, je suis trop en galère, viens m'aider. Et le mec a débarqué un dimanche sur le plateau pour l'aider à faire les réglages et tout ça, quoi. Et c'est il l'a fait juste pour dépanner son pote, tu vois, il en avait, à mon avis, il en avait rien à branler de James Bond, mais tu te dis que le mec il a été capable d'aller sur un truc aussi commercial, parce que c'était un truc avec, c'était l'époque Roger Moore si je dis pas de conneries, et le mec il t'a fait ça détente un dimanche entre le breakfast et le tea time, quoi.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire.
Et moi j'aime bien l'idée comme quoi un mec est capable d'avoir cette force d'être, de pas être tellement cantonné à un style qu'il peut pas aller ailleurs. Et Villeneuve, il me fait cette impression, même s'il a des terrains de prédilection. C'est-à-dire, même s'il peut faire des choses, il les fait pas forcément.
Parce que... c'est hétérogène, tu vois, t'as Incendie, t'as Sicario.
Ouais.
Après, d'un seul coup, tu passes dans la science-fiction de. Prédiction de.
C'était premier contact.
Pour moi, c'était un genre de science-fiction à la Asimov, tu vois. C'est pas piou 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 piou, pam pam pam. C'est.
Oui, non, il a vraiment, il a une ambition d'auteur.
Exactement. Oui, c'est vrai que ça me fait penser. Tu vois, j'avais pas pensé. Ça me fait exactement penser avec Kubrick, en fait. C'est.
Plein de c'est toi qui vois le film, et c'est moi qui trouve les références. Non, mais franchement.
C'est une enfance. Enfin, on le compare jamais à Kubrick. J'avais beau entendre des gens parler, on compare jamais à Kubrick.
Après, c'est toujours dangereux de comparer quelqu'un à Kubrick.
Ouais, mais je pense que c'est juste le comparer sur sa diversité.
Ah oui, moi, c'est sur cet angle-là, parce que déjà, je connais pas à mort sa filmo à l'un et à l'autre. Mais c'est la démarche d'auteur. Là, je prends de la distance des films en eux-mêmes et vraiment la démarche d'auteur qu'ils ont. C'est des mecs qui se frottent à un sujet, qui ont une ambition cinéphile, quoi.
Exactement, ouais. On peut dire qu'aussi, Blade Runner, en fait... Directeur de prod, le chef de prod, Roger Deakins, sur le Blade Runner 2049, et ouais. Tout le monde s'accorde à dire que en fait, c'est un film de Denis Villeneuve et de Roger Deakins, tu vois.
Oui, que sa contribution a été très très importante.
Exactement, c'est un des gros points forts du film, c'est sa photo, t'as pas vu ça depuis des années, une photo aussi magnifique que Blade Runner 2049, c'est.
Ah, la photo, bon, on a vu ça un peu dans les trailers. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle a ce truc justement Blade Runner-esque, si on devait faire un peu de néologisme?
Et Blade Runner steampunk, tu vois, c'est un jeu sur les lumières, c'est un jeu sur pour moi tout est sur les lumières, sur les décors surtout. Il y a le décor de Wallace, le personnage joué par Jared Leto, où voilà, c'est tu vois, c'est des reflets de lumière sur l'eau, et du coup l'eau se reflète sur les murs, quoi, dans le trailer. Et ça donne un rendu magnifique. C'est Ryan Gosling, on le voit dans le trailer, il rentre comme dans un désert, et c'est tout orange, la lumière elle est exactement au bon endroit, c'est magnifique, en fait t'as l'impression que l'image a une texture pour être touchée et même décrire. En fait ça à chaque plan, Lui, t'as l'impression de la sentir sur l'écran. C'est la poussière, t'as l'impression de la sentir, quoi.
Il y a beaucoup de textures.
Ouais. C'est pas du poussiéreux, ça peut être lisse aussi, hein. Il n'y a pas forcément de texture, mais après, Blade Runner, vu que le nouveau Los Angeles, il pleut tout le temps, du coup, t'as d'eau. Après, à un moment, il va dans une déchetterie, c'est sale, tout se voit et tout. C'est cohérent au niveau lumière, au niveau ambiance. L'ambiance est pareille, je peux pas de l'ambiance parce que c'est un très raccord par rapport à la photo, au rythme du film. Non, t'as l'impression, tu sais, ça va jamais trop haut, ça va jamais trop bas. Mm-hmm. T'as l'impression, oui, t'as l'impression de flotter en fait. Et même pendant des scènes d'action, t'as l'impression d'être en flottement. T'as l'impression d'être entre ces deux émotions, quand il y a une grosse scène d'action, mais non, ça va pas trop, tu vois, ça reste. Et boum, puis après ça redescend un petit peu et ça reste là et ça descend pas trop.
Ça vire pas au frénétique.
Exactement, ouais.
Alors, par rapport au premier Blade Runner, est-ce que tu dirais que toute cette partie de réal, elle est dans la continuité ou elle est dans le changement?
Ouais, je dirais qu'elle est dans l'évolution. Ouais, c'est Blade Runner, mais dans son évolution.
Blade Runner évolution, attention.
Hein. Blade Runner évolution. Ouais, c'est comme un Pokémon, tu vois, ça évolue.
Oh merde. On va la couper celle-là, on va la couper.
Donc, pour moi, c'est l'évolution de Blade Runner. Blade Runner, dans le 1, il y a. Ouais, dans Blade Runner 1, il n'y avait pas autant de plans qui m'ont marqué que dans Blade Runner 2049. Vraiment, Blade Runner 2049, là, j'ai plein de gens en tête, hein, je les vois encore. Dans le trailer, on voit à un moment une scène où t'as un hologramme géant qui va parler à Ryan Gosling. Tout ça, ça te marque, en fait. Blade Runner 1, moi, je dirais qu'il y a la scène vers la fin où t'as Descartes
Ruther Hauer qui déclame de la poésie sous la pluie en slip.
Ça, même avant, t'as un jeu de lumière dans où ils se pourchassent dans la petite maison là, pareil.
Ouais.
Voilà, moi je trouve que c'est vraiment l'évolution du premier Blade Runner au niveau en termes d'image et en termes d'ambiance. Franchement, je trouve ça très très réussi. Je trouve que c'est le plus gros point fort du film en fait. C'est vraiment la photo, on n'a pas vu ça depuis. Je ne saurais même pas te dire c'est quoi le quand est-ce que j'ai pris une aussi grosse claque niveau photo. Hein.
Alors puisqu'on en est sur les composantes du film et on a abordé le cast, le fait que le scénario avait la patte de son auteur et même tout le reste, on a parlé de la photo. Point très important selon moi pour un Blade Runner, la musique. C'est-à-dire qu'on avait une première BO légendaire par Vangelis. Donc du coup, qu'est-ce que ça devient dans ce nouvel opus?
Mais ça devient que c'est Hans Zimmer et un certain Benjamin Wallfisch qui a fait des musiques pour ça et Dunkerque récemment. Mm-hmm. Donc qui se sont collés qui ont mis la main à la patte. Et je dirais que ça colle plutôt très bien. L'ambiance Blade Runner, c'est très respectueux, c'est un peu moins jazzy que le premier. Tu sais, y a aucun saxophone dans ma mémoire.
Alors, est-ce que c'est pas parce que c'est un peu moins les années 80?
Bah si, justement, mais tu vois, dans les films noirs en général, tu sais, t'as toujours un petit saxophone, même récent, hein, t'as un petit saxophone qui joue. Non, là, pas du tout, mais ça respecte le produit fini. Moi, je l'écoute depuis que j'ai vu Blade Runner 2049, je suis sur Spotify, hop, j'ai vu Blade Runner 2049, enfin vraiment, c'est une BO que j'aime beaucoup. Et de toute façon, c'est Hans Zimmer, pour moi, c'est quelqu'un que j'inspecte beaucoup pour son travail, même si c'est très Hans Zimmeresque, tu vois, c'est...
Alors, j'allais te le demander, parce que Hans Zimmer, il est... Bon, c'est un génie, hein, ça, il n'y a pas d'embrouille, mais parfois, il a quand même un peu tendance à tourner en rond, tu vois, c'est un peu comme des mecs John Williams ou des compositeurs comme ça. Ils ont tellement un signature move dans leur zik que au final, tu vois, ils vont toujours te mettre en valeur une émotion ou une situation de la même façon, ce qui fait que de film en film, rien qu'à la musique, tu peux savoir ce qui se passe sans même regarder le film.
Ouais, mais moi, Hans Zimmer, au début, je ne l'avais pas reconnu dans sa musique. C'est au moment des crédits, je me suis dit, ah, même, c'est Hans Zimmer. Ah, d'accord. C'est vrai.
Donc, il n'est pas caricatural.
Il n'est pas caricatural, non. C'est parce qu'en fait, ça colle très très bien au film et ça colle très très bien à Blade Runner. Tu vois, c'est des petits, c'est des petits sons électroniques, tu sais, ça s'allonge un petit peu, tu vois. Mmh. Ouais, c'est vraiment très bien, et dans les scènes où il y a de l'intensité, c'est pas du tout Hans Zimmer-esque. Je prends son boulot sur Dunkerque, où c'était vraiment autre chose que du Hans Zimmer classique. Bah là, c'est pareil, il fait un truc qui lui ressemble un peu plus, mais qui est plus, qui est plus.
Qui est aussi, au service de son récit.
Voilà, c'est ça. C'est exactement. Voilà, moi je trouve que c'est une BO très, très efficace pour le coup.
Et alors, tu as dit qu'il était avec quelqu'un d'autre
Alors, Benjamin Wallfish, on m'a dit, mais je crois qu'en fait, c'est une histoire de. Au début, c'était Benjamin Wallfish qui devait faire toute la BO, et après, ils ont appelé Hans Zimmer pour lui dire ouais, il fait un peu de la merde, lui. Et du coup, ils ont fait appel à Hans Zimmer, ça doit être une magouille pareil, parce que sinon. Enfin, moi, j'ai entendu cette histoire.
Donc, l'autre, c'est quoi? C'est un prête-nom?
je sais pas. Il a fait la BO, une des BO, il a travaillé sur ça et Dunkerque. Il a travaillé sur Dunkerque, donc je pense qu'il a eu un contact avec Hans Zimmer. Mm-hmm. Ils se connaissent, et du coup, ils ont travaillé ensemble. Enfin, après, je suis pas penché sur l'histoire, j'ai vu que c'était. J'ai vu qu'ils ont co-travaillé. Donc,
Parce qu'en fait, c'est un peu à la mode en ce moment, quand il y a des BO, d'avoir une méga grosse tête d'affiche, et puis un sidekick. Tu vois, c'est vraiment le modèle Batman et Robin, où t'as le mec super legit, mais dont on dit, ouais, bon, on l'a déjà entendu 50 000 fois. Donc en fait, il te rajoute le sidekick rigolo à côté, la BO avec JunkieXXL pour Fury Road.
Ouais, ouais.
Où tu te dis, bon, bah, on prend un mec over the top, il y a zéro embrouille, puis on va quand même mettre un petit mec un petit peu jeune pour faire la transition, pour que la nouvelle génération, est-ce que c'est pour s'adresser à la nouvelle génération, j'en sais rien, se sente pas complètement largué, pour créer des ponts entre le classique et le néo-classique, enfin, je sais pas, c'est une démarche qui se fait beaucoup sur les grosses prods comme ça. Et je me dis, mais est-ce qu'on en est arrivé à un stade où si tu ne mets pas ces mecs-là, tu ne peux pas faire de BO? C'est-à-dire, si tu ne mets pas un Hans Zimmer, si tu ne mets pas un John Williams ou équivalent, c'est physiquement, ta BO ne s'écrit pas. Hein. T'as pas Danny Elfman, tu peux pas... Enfin,
je pense que tu veux dire, et si c'est pas eux, en fait, c'est des musiques,
c'est pas légitime,
des musiques déjà existantes, en fait.
Oui,
comme dans un Baby Driver,
oui, voilà, ils vont te prendre ce qui sera pas une bande originale, selon moi, mais une soundtrack.
Le Baby Driver.
Ouais.
Ouais, ouais.
Donc voilà, gros questionnement sur la musique.
Je pense aussi que la musique, c'est plutôt personnel, en fait. T'as pas les mêmes goûts, chacun n'a pas les mêmes attentes. Je pense que si tu attends une musique qui respecte Blade Runner, tu seras content avec le travail proposé.
Bon, ça va.
Après, mais je connais des gens qui sont fans de Blade Runner et qui se les a un peu sortis du film.
Ouais.
Ça, tu vois, c'est comme quoi moi je trouve que ça collait très bien, c'est pas du tout sorti. D'autres, ça les a un peu sortis, je sais pas.
Mais est-ce que c'est pas lié aussi au fait que la musique de Vangelis, au-delà de son côté lié au film et qui lui donnait tout son cachet, en elle-même c'était une musique qui pour l'époque était complètement révolutionnaire. C'est-à-dire que t'entends ce son synthé-wave aujourd'hui, bon bah voilà, t'écoutes du Perturbator, t'écoutes Carpenter Brut et tout, ils ont intégré ce son, donc en fait on l'entend de toute façon dans notre flow musical global, alors qu'à l'époque de Vangelis, ce son il était tellement unique, il ne signifiait que Blade Runner.
Non, ouais. Ouais, mais tu vois, c'est encore différent de l'électro-wave. Oh, tu vois, c'est... Mm. Non, c'est quand même encore différent. T'as des. Celui qui me disait ça, c'est. Enfin, celui que j'ai entendu dire ça, c'est au moment où t'as comme des percussions et du coup ça l'a sorti un moment. Enfin, j'ai pas trop compris. Bref, je pense que c'était surtout personnel plus qu'autre chose.
Oui, t'as le ressenti, t'as le côté Madeleine de Proust.
Voilà.
Qui j'imagine. Alors, je vais te poser une dernière question, justement, à cause de ce côté Madeleine de Proust. Est-ce qu'à l'inverse, quelqu'un qui connaît Blade Runner et qui aime le film a pas une barrière assez infranchissable du « bah c'est plus le même film de toute façon ». C'est-à-dire que quoi que tu fasses, ça y est, le film Blade Runner, il est ce qu'il est, et le fait de vouloir rajouter quelque chose, ça va casser ton jouet, ton... Alors on dit souvent ça, le doudou transitionnel, tu vois, le truc qui t'a suivi de ton enfance, de ton adolescence, et que de nos jours, tu as comme référence, et puis finalement, quand tu le remets en perspective de quelque chose de neuf, tu fais « ouais, mais non, mais je préfère l'ancien, parce que truc machin... » Est-ce qu'il n'y a pas ce risque?
Alors, ce risque...
Je te le dis parce que moi, c'est ma crainte.
Ouais, je comprends. Mais je pense qu'il faut pas voir Blade Runner comme une suite de ce que t'as vu dans ton enfance, mais il faut prendre comme un film à part entière, parce que c'est vraiment un film à part entière. Tu vois, c'est pas, comment dire. C'est un film à lui tout seul, tu vois. Tu peux faire Blade Runner, presque de Blade Runner 2049 pour, sans Blade Runner 1, presque. Tu vois, c'est, je pense, il faut pas le voir comme un héritage. Ouais, faut pas voir Blade Runner 1 comme un fardeau ou un héritage de Blade Runner, où t'es obligé d'aimer Blade Runner 1 pour aimer Blade Runner 1. Je sais pas, c'est une question assez difficile.
Ah bah attends, heureusement quand même. Non mais par contre, il y a un truc qui est intéressant dans la façon dont tu réponds, c'est tu dis pas il faut l'avoir vu, tu dis il faut pas l'avoir aimé. Et ça a du sens pour moi. À savoir que comprendre l'intrigue, c'est froid, c'est rationnel, c'est t'as compris, t'as pas compris, t'as une référence, c'est un code, t'as l'élément de communication ou autre. Par contre, le fait que ça te parle, que ça te plaise, ça vient de ce que toi tu apportes au film, de comment tu as vécu le premier, etc. Et donc je trouve ça assez intéressant que tu dises le fait d'aimer l'un n'implique pas d'aimer l'autre et réciproquement. Parce que du coup ça veut dire qu'il a sa chance propre.
Ouais.
Il y a des films, si t'as aimé le premier, tu vas forcément aimer le deuxième et inversement. Là, ce que t'es en train de me dire, c'est que finalement, tu l'as dit directement, c'est deux films qui peuvent être distincts et qui peuvent s'envisager différemment.
Pour moi, oui. Mais après, il faut avouer quand même, il y a une patte Blade Runner, voilà, c'est spécial. Mais pour quelqu'un qui n'a pas vu le Blade Runner 1, il peut très bien aimer Blade Runner 2049. Après, moi, je suis fan de Blade Runner, donc forcément, j'avais aussi la même crainte que toi. Hein, et franchement, non, j'étais rassuré. Peut-être que Blade Runner 2049, on peut le voir comme un film à lui tout seul et pas forcément. Blade Runner 1.
Oui, parce que tu disais une suite. Ok. Alors, là, c'est la fin de l'instant promo. Il ne te reste plus qu'une phrase pour me vendre le film. Donc, sous-pèse bien chaque mot. Et voilà.
C'est dur. Hein.
Je te laisse. Ah, c'est notre projet.
Bon.
C'est de vendre les films sur un one-liner.
Alors moi je dirais que si tu attends un film dans la continuité de Blade Runner comme on en a parlé, tu auras du Blade Runner, ça c'est sûr. À peu près le même propos, mais en plus poussé. Ça parle d'amour, très très vraiment très justement, c'est vraiment très très beau. Ça parle de relations entre l'humain et l'évolution de technologie, du rapport entre humain et machine. Vraiment, enfin c'est très juste, c'est y a pas, ça pète pas plus haut que son cul, quoi. Pour moi, l'histoire racontée, c'est vraiment une très belle histoire et aussi très fatale, enfin pas fatale mais très très crue dans son
ouais.
Rapport. Pour moi, c'est voir déjà rien que sa photo et son ambiance. L'acteur est vraiment, enfin ils font un boulot de fou sur ce film. Si on aime Blade Runner, on aimera Blade Runner 2049 et on se doit d'aller au cinéma. Pour ce film.
Ah, alors, j'aime bien quand ça finit sur de l'impératif, on doit. Ok, donc c'était ton instant trailer boy sur Blade Runner 2049. Donc moi, je vais te donner mon top 5 de ce que j'ai relevé, de ce que tu m'as dit, hein, des arguments qui, moi, m'ont fait me dire « Ah ouais, je franchirais le cap ». J'ai noté le cast. J'ai noté l'intégration de Villeneuve dans l'univers, c'est-à-dire qu'il se l'est approprié, mais en même temps, il respecte son sujet. La photo, ça, je crois que tu l'as dit à peu près 10 millions de fois.
Hein. 10 millions de fois.
Comme quoi, la photo était ouf. Je pense que ne faites pas de jeu à boire, chers auditeurs, sur dès que Fix parle de la photo, vous prenez un shot. Sinon, vous êtes mort. Hein. Là, sur 40 minutes d'enregistrement, c'est le coma éthylique assuré. Donc on parle d'une BO qui a du sens et qui colle à son propos, et puis au final une suite qui en est pas une mais qui en fait si, et qui du coup peut se voir ou pas comme un prolongement ou se suffire à lui-même. Voilà, ça c'est mon top 5 des arguments que je retiens de ce que tu m'as dit.
Je rajouterais aussi que, enfin, ouais, j'en ai parlé à la fin, et le propos par rapport à l'amour, je le trouve aussi magnifique dans ce film, donc voilà.
Et en plus, il y a du love. Il y a du Kokoro, mais c'est oui, magnifique.
C'est vraiment très bien fait.
Alors c'était le trailer voilà valorisé pour Blade Runner. Je vais quand même mettre un peu de polémique, un peu de sel dans cette émission. Moi il y a un truc qui m'a un peu emmerdé dans le plan média du film, et je pense que tu vas voir à quoi je fais référence. Donc on a eu plein d'affiches et de visuels avec les différents héros, donc Harrison Ford, Ryan Gosling en tête, Jared Leto à côté. Et une parfaite inconnue qui risque de le rester longtemps parce qu'il n'y a même pas son nom sur les putains d'affiches.
Eh ben oui. Moi j'ai une théorie que j'ai développée tout seul, hein, c'est qu'en fait c'est une intelligence artificielle et du coup pas de nom et du coup il n'y a pas de nom sur l'affiche. Voilà.
Ah ouais, alors bon, là c'est presque du spoiler donc on va pas trop développer ça, mais. C'est dans le pitch, bon d'accord. Mais voilà, on notera quand même ce truc assez alors c'est pas la faute du film hein, c'est pour ça que là je conclus là-dessus, mais j'aime bien, je pense qu'il faut relever un peu de sel à chaque fois sur les films dont on parlera, parce que sinon on a l'air d'être des fanboys et ça n'est pas crédible, donc un peu de négativité ne nous fera pas de mal. Bon Fix, en tout cas je te remercie d'avoir été là pour cette première. Toi comme moi, on peut nous retrouver sur les ondes de Bagro Point.
Exactement.
Bagro Point, la référence de la bagarre francophone.
Tout à fait. On ne fait pas mieux depuis 1998.
Exactement. From the past. On a d'ailleurs un enregistrement qui est prévu la semaine prochaine, que vous pourrez suivre en live et puis réécouter après. Il y aura d'autres émissions, bien sûr, sur Top 5, dont un prochain Trailer Boy. En tout cas, merci encore. Je te laisse un petit mot de la fin, si tu le souhaites.
Merci. Et puis, aller au cinéma. C'est cool, le cinéma.
Mais oui, le cinéma, c'est bien. Et on vous en reparlera dans un prochain épisode de Trailer Boy.
Ciao, ciao.